BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi.
Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur le plateau de BFM Patrimoine. Deux heures d'émission consacrées à l'actualité des marchés financiers et des placements. Au sommaire ce matin, la saison des résultats des banques françaises. Coup d'envoi avec BNP Paribas qui dépasse les 10 milliards d'euros de bénéfices annuels. On verra la réaction des marchés financiers dans un instant à Euronext. Ce sera avec Antoine Larigauderie. Quel bilan pour le marché immobilier en 2022 après une année record en 2021? Est-ce qu'on peut parler de rééquilibrage ou de baisse structurelle? Quelles sont les perspectives en matière d'évolution des prix? Le Conseil supérieur du notariat vient de publier son baromètre du marché immobilier. Son porte-parole sera avec nous pour le décrypter tout à l'heure à 10h15. Quelles sont les dernières tendances en matière d'épargne salariale, de partage de la valeur, comme on dit désormais en entreprise? On fera le point sur les nouveautés à 10h40 avec Jérôme Dédéian, président de Mon Partenaire Patrimoine. Et puis on reparlera des banques centrales puisque Jérôme Powell prendra la parole dans les prochaines heures. Le patron de la Fed s'exprimera quelques jours après une nouvelle hausse des taux aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Rendez-vous donc tout à l'heure à 11h10. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à midi.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et tout de suite, direction le siège d'Euronext à La Défense, on retrouve Antoine Larigauderie. Bonjour Antoine.
Bonjour Stéphane.
Comment se passe ce début de séance?
La première heure de cotation est un petit peu volatile, un petit peu inégale. On est en timide hausse là pour l'instant, plus 0,07%, 7142 points. Mais voilà, on a fait des allers-retours, aussi bien en termes de tendance sur le CAC 40 qui était en baisse, il y a encore une grosse demi-heure, que sur un certain nombre de valeurs et des valeurs très exposées par l'actualité. On va voir notamment BNP Paribas, le cas est intéressant. Du côté des autres indices européens, même chose, hein, on commence sur des points d'équilibre avec du plus 0,14% pour l'Eurostock 50, moins 0,07% en revanche pour le DAX à Francfort. Les principales dynamiques de marché, alors sur 24 heures, on a un rebond assez sensible hein, du baril de Brent de mer du Nord qui est quasiment maintenant du côté des 83$, alors qu'on était sous les 80 en séance hier. On est à 82,79 là en ce moment et on est encore sous les 76 pour le baril de brut léger américain, mais il continue de remonter. 75,92 en ce moment. L'autre fait majeur de la matinée, c'est cette très nette correction de l'euro. Le dollar reprend vraiment des couleurs et l'euro repasse largement sous 1,08. On est même à 1,0721 avec une dynamique vraiment baissière enclenchée depuis hier, alors qu'on était du côté d'un 0,9 et 1,10 il y a encore quelques jours. Donc une très nette correction et on voit que le billet vert reprend vraiment de l'attrait. Alors la plus forte hausse du CAC 40, elle est pour Total Energy qui profite de cette hausse des cours du brut hein, et qui gagne en ce moment 1,7% à 56,59 €. Et derrière, on retrouve BNP Paribas qui gagne 1,7% à 61,78 €. Alors, on en a beaucoup parlé des résultats de BNP Paribas, c'est un sans faute. On est supérieur aux attentes partout. Il y a un relèvement des prévisions de croissance des résultats pour l'ensemble de l'exercice annuel. Il va y avoir des rachats d'actions. Il y a un gros dividende. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'il y a une plus-value qui n'est même pas comptabilisée dans les comptes et qui servira à financer des rachats d'actions et de la croissance externe bien ciblée. Donc du coup, c'est le sans-faute total pour BNP Paribas. Et pourtant, le titre était même en baisse au milieu de la première heure de cotation, avant de remonter. Et là, ici, la deuxième plus forte hausse du CAC 40. Donc il y a quelques petits arbitrages peut-être sur la prise de valeur de l'ensemble du secteur bancaire depuis les bons résultats d'UniCredit et du BS, il faut bien le dire. L'ensemble du secteur gagne à peu près 17% si on regarde l'indice sectoriel. C'est la deuxième meilleure performance sectorielle du CAC 40, juste après le luxe. Donc du coup, quelques arbitrages. On a Renault qui continue de profiter des bonnes nouvelles du reformatage de son alliance avec Nissan. Le titre gagne 1,3% à 39,64. Sinon, à signaler parmi les baisses, Eurofin Scientifique recule de 3,3% à 68,70. La distribution est mal orientée. Hein. Carrefour recule de 2,72 à 17 €. Et on a Casino Guichard qui perd 3,12% à 11,48. À noter le très net redressement d'Orpea qui sort d'une baisse absolument spectaculaire. En une dizaine de jours, on perd plus de 70%. Là, le titre remonte de 10,5% à 2,52 €, encore des arbitrages alors très très techniques depuis que la CDC a repris les choses en main. Le CAC 40 gagne 0,02%, 7138 points et l'euro donc 1,0717. Stéphane.
Merci beaucoup Antoine Larigauderie. Prochain rendez-vous avec les marchés, ce sera 10h30 pour le match des traders. 10h05, l'essentiel de l'actualité économique.
BFM Business, l'info éco. Stéphanie Collot.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Stéphane. À la une, le déficit commercial se creuse encore en 2022 à 164 milliards d'euros. C'est 78 milliards de plus sur un an. En cause, la crise énergétique qui a fait exploser les importations de gaz, de pétrole et d'électricité. Autre indicateur, en Allemagne, la production industrielle plonge de plus de 3% en décembre après une hausse de 0,4% en novembre. C'est plus que prévu. En cause, là encore, la crise énergétique et la guerre en Ukraine qui plombe l'activité. C'est une nouvelle année record pour BNP Paribas. La banque dépasse la barre des 10 milliards d'euros de bénéfices nets en 2022, en hausse de 7,5%. Le groupe révise à la hausse ses objectifs, à savoir une croissance moyenne de son bénéfice de 9% d'ici à 2025 contre 7% précédemment. La banque dit ne pas être intéressée pour acquérir une participation dans Orange Bank. Notez que Thierry Laborde, le directeur général délégué de BNP Paribas, sera l'invité de Good Evening Business. Ce sera ce soir à partir de 19h15. Chez le britannique BP, le bénéfice hors éléments exceptionnels a plus que doublé sur un an à 27,7 milliards de dollars, dopé par le cours élevé des hydrocarbures. Mais la major pétrolière publie une perte nette de 2,5 milliards de dollars, plombée par la sortie de Rosneft après la guerre en Ukraine. Après 25 années de vie commune, Renault et Nissan redéfinissent leur mariage. Et si au sein de l'alliance, on parle de rééquilibrage, pour les analystes, Renault sort perdant de ce deal. Luca De Meo est venu défendre la nouvelle vision stratégique du groupe. Il était l'invité exceptionnel de Good Morning Business ce matin.
Et en fait, c'est le temps qui va donner raison à l'un à l'autre, parce qu'on a bien l'intention avec Nissan et Mitsubishi de faire des choses. D'ailleurs, par exemple, ce nouveau contrat va permettre d'amener des voitures de Nissan et Mitsubishi produites en France dans les usines de Renault. Donc ça, c'est du concret.
Holcim se renforce aux États-Unis. Le cimentier suisse rachète l'américain Duro-Last, un fabricant de systèmes de toiture, montant de l'opération 1,3 milliard de dollars. La riposte de Google face au chat GPT de Microsoft. Le groupe lance son propre robot conversationnel baptisé Bard. Cet assistant virtuel de conversation basé sur l'intelligence artificielle sera proposé au grand public d'ici quelques semaines. Et puis en France, c'est aujourd'hui la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le trafic est très perturbé dans les métros, RER et trains. Le mouvement est aussi très suivi dans le secteur de l'énergie. Les expéditions de pétrole sont interrompues depuis les sites de Total Energy. Et puis chez EDF, on constate des baisses de production d'électricité, mais sans provoquer de coupure, Stéphane.
Merci beaucoup Stéphanie Collot. On se retrouve tout à l'heure, un petit peu après 11h, pour un nouveau point sur l'actualité. 10h08, la pépite.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Et ce matin, on va se pencher sur le titre S2I, Société de Conseil et de Services Informatiques. Pratiquement 17% de progression pour ce titre depuis le 1er janvier. On en parle avec Arnaud Cadard, qui est en ligne avec nous, gérant de portefeuille chez Flournoy Ferry. Bonjour Arnaud.
Bonjour Stéphane.
D'abord, peut-être un petit mot de présentation. S2I, c'est un concurrent d'Alten, pour faire simple.
Exactement, c'est un petit concurrent d'Alten, effectivement. C'est un acteur français du conseil en technologie et des services informatiques. C'est une entreprise qui a été fondée il y a quelques années maintenant, en 1979, par Bernard Huvé, qui en est toujours le premier actionnaire, mais qui n'est plus le dirigeant opérationnel aujourd'hui. Son rôle est désormais un rôle de président du conseil de surveillance. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, un petit concurrent d'Alten, qui trouve ses racines en France, mais qui a aussi réussi son implantation internationale depuis une quinzaine d'années sous la houlette de son actuel dirigeant opérationnel, Eric Matossi, et qui donc est désormais présente sur 4 continents, 16 pays et plus de 100 implantations. Alors le métier d'un S2I ou d'un Alten, hein, c'est que c'est, enfin, en l'occurrence pour S2I, c'est que ces 10 000 ingénieurs conseils interviennent chez les grands comptes dans l'intégration de l'innovation des nouvelles technologies. Donc c'est la répartition du chiffre d'affaires, c'est environ 40% pour les systèmes d'information des clients, donc c'est l'informatique de gestion, et puis 60% plutôt dans les produits, dans l'innovation à travers les produits et services. On peut appeler ça également l'informatique embarquée notamment. Bon, les premiers secteurs d'activité, c'est l'aéronautique, pour environ 20% du chiffre d'affaires, Airbus est probablement le premier client. Les télécoms et l'énergie sont des secteurs importants aussi, mais il y a la banque et les assurances qui sont montées en puissance au cours des dernières années pour désormais talonner l'aéronautique comme premier contributeur au chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, il devrait pour la première fois dépasser le milliard d'euros au cours de l'exercice qui se clôturera au 31 mars, avec une croissance de plus de 20% et une marge opérationnelle qui devrait probablement tangenter les 10%.
Pourquoi c'est une valeur intéressante? Qu'est-ce que vous appréciez dans le profil du groupe?
C'est une entreprise qui est bien gérée, hein. Clairement, c'est une entreprise vraiment familiale avec l'influence au cours de Bernard Huvet et la montée en puissance d'Éric Mathieu au capital. Donc c'est une entreprise qui est bien gérée au long cours, qui est bien sûr positionnée sur les bons vecteurs, hein, globalement la numérisation des entreprises. On a cet alignement d'intérêts avec les dirigeants qui est assez fort et qui est aussi un point très positif. Et puis je pense qu'on a vraiment une image de bon employeur, aussi au long cours, apprécié dans un métier qui repose essentiellement sur la capacité à attirer les ingénieurs et donc un métier de ressources humaines. Et puis le deuxième point qu'on aime bien aussi, c'est que le groupe a une belle structure financière, il dispose d'un trésor de guerre assez significatif, plus de 70 millions d'euros, qui lui laisse une forme de liberté stratégique, hein. Qui a trésor de guerre, qui peut être mobilisé dans des futures opérations de croissance externe. Récemment, le groupe a d'ailleurs racheté Metanext, qui est un acteur intéressant dans le cloud computing. Bon, à l'inverse, il y a quelques petits points de vigilance. Hein. On est sur un secteur où il y a une tension sur les ressources humaines, donc on a assisté aussi, chez S2I, à une progression du turnover parmi les équipes. Le chiffre est monté à plus de 25%, donc il faut faire attention dans cette bagarre pour les ressources humaines. Bon, attention aussi au poids de la Pologne dans la progression de l'entreprise, dans l'appréciation aussi de la valorisation du groupe, parce que il y a des intérêts minoritaires importants aussi dans cette filiale. Et puis attention, dernier point d'attention, c'est qu'il faut faire attention, Crédit Suisse est un client important, or c'est pas nécessairement la structure qui est la plus en forme en ce moment.
En termes de valorisation, comment est-ce que le groupe est situé par rapport au secteur des SS2I? Je le disais, c'est une valeur qui a grimpé de pratiquement 17% depuis le 1er janvier.
Oui, alors c'est vrai, c'est bon, ça reste une entreprise d'une petite capitalisation quand même à l'échelle de la bourse européenne. Un milliard d'euros, ça se paye 10 fois le résultat opérationnel, 15 fois le price earning, 15 fois les bénéfices par action. Donc c'est pas des chiffres extrêmement élevés, mais c'est pas un secteur qui se paye toujours très très cher. Bon, ça se compare favorablement ces multiples à Alten, hein, qui est valorisé 25-30% en plus cher, notamment en termes de résultats opérationnels. Alors c'est vrai que le parcours boursier a été assez excellent depuis le début de l'année, mais aussi sur les 18 derniers mois, clairement. Bon, c'est une entreprise qui est plutôt cyclique, hein, évidemment. Elle est quand même confrontée à la demande en innovation par des grands clients, notamment industriels. Donc, il faut être un peu vigilant par rapport à ça. Et puis, on a une liquidité qui est relativement faible, avec un flottant qui est relativement limité. Hein. C'est une entreprise qui a un gros fan club de sociétés de gestion qui sont présentes autour des familles UV et Matossi. Donc, on a une liquidité un petit peu faible. Très, très belle valeur. Attention, il faut regarder à bien entrer sur ce titre.
Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Arnaud Cadart, gérant de portefeuille chez Flournoy Ferry. Dans un instant, on va parler du marché immobilier, mais d'abord un détour par la macroéconomie, puisque le patron de la Fed doit s'exprimer dans les prochaines heures. On en parle tout de suite avec Irina Topasseri.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Bonjour Irina, merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes économiste senior chez AXA Investment Managers. Jérôme Powell va parler dans les prochaines heures. Qu'est-ce qu'on attend de sa déclaration?
Oui, bonjour. Effectivement, on va l'écouter très attentivement parce que la semaine dernière, c'était la semaine de toutes les épreuves. Donc, on a eu la réunion de la Réserve fédérale. Et bon, sans qu'elle nous épate sur le mouvement de hausse de taux, des taux directeurs à plus de 25 points de base à 4,75 au niveau, à la fourchette haute, hein, de sa fourchette. Mais là où il y a eu un peu d'optimisme, hein, du marché, de la part du marché, ça a été sur sa manière un peu évasive de répondre aux questions après la décision de politique monétaire. Et cette façon de répondre a fait un peu espérer au marché, en tout cas, de comprendre que ce fameux pivot sur les taux était bel et bien là et qu'il y avait vraiment un retournement à venir de la politique monétaire avec des baisses de taux dès cette année. Et ça, ça a été quelque part a reçu une douche froide, j'ai envie de dire, vendredi, avec un rapport de l'emploi aux États-Unis qui, somme toute, effaçait complètement tout semblant d'ajustement du marché du travail. Donc, ça pose effectivement une grande question. Maintenant, la question, c'est est-ce que Jerome Powell va s'exprimer d'ores et déjà là-dessus et va changer de fusil d'épaule, va resserrer un petit peu le ton ou va rester un peu dans la même veine, attendant effectivement la publication des minutes pour voir un peu plus clair qu'est-ce qui s'est passé réellement au bord des directeurs lors de la prise de décision de la semaine dernière.
En tout cas, ces chiffres de l'emploi, c'est une véritable douche froide. On sait qu'aux États-Unis, la Fed est beaucoup plus attentive au marché de l'emploi que ne l'est, par exemple, la Banque Centrale Européenne en Europe, puisque ça n'est pas dans son mandat.
Oui, d'abord, c'est pas dans le mandat. Puis après, je pense qu'il y a aussi une autre explication de cette attention sur le marché de l'emploi. C'est que dans la structure même de la négociation salariale qui se passe des deux côtés de rive de l'Atlantique, on a une façon très différente de procéder. Donc en Europe, nous avons une façon beaucoup plus centralisée, même si, vous voulez, l'indexation des salaires sur l'inflation est bel et bien terminée, hormis la Belgique qui est un cas un peu exceptionnel. Il y a quand même, en ayant un système plus décentralisé aux États-Unis de cette négociation salariale, généralement les salaires répondent beaucoup plus vite aux conditions, si vous voulez, cycliques économiques. Donc ça, je m'explique, c'est-à-dire quand les offres d'emploi s'amenuisent, parce que vous êtes dans un cycle de ralentissement, votre capacité personnelle, parce que vous négociez au niveau individuel, de négocier votre salaire, baisse fortement et très vite. Donc il y a une rapidité en fait de transmission entre le marché de l'emploi et les salaires, donc du coup pour la Réserve fédérale, l'inflation, l'effet sur l'inflation, qui doit se mettre en route et où elle va être très focalisée. Et effectivement, ce rapport de l'emploi, qui nous donne aussi le niveau des salaires, où on voit très bien que les salaires réels restent bel et bien en territoire positif, on voit pratiquement une accélération des salaires, fait effectivement craindre aujourd'hui que peut-être probablement le sujet de l'inflation n'est pas terminé. Donc, c'est-à-dire des inflations certes, mais à quelle allure hein. Et ça va être ça le débat. Hein.
D'ailleurs, la Fed parlait d'un sujet de préoccupation hein, quand elle parlait de l'inflation la semaine dernière. C'est réaliste d'envisager une baisse des taux aux États-Unis cette année ?
En tout cas, de ce qui aujourd'hui, le marché intègre une baisse des taux. Je pense que c'était la dernière fois que je regardais, c'était autour de 50 points de base cette année. Pour nous, notre scénario central n'a jamais été une baisse de taux dès cette année, justement parce que la tendance du reflux, si vous voulez, de l'inflation sous-jacente va prendre un certain temps, ce qui fait que la Réserve fédérale a plutôt intérêt à rester un peu à faire du surplace, si vous voulez, une fois qu'elle aurait atteint son pic des taux qui pourrait être atteint en mars, voire même au mois de mai. Hein, Donc c'est vrai qu'il y a un peu d'exubérance, si vous voulez, des marchés qui espèrent que les taux vont baisser très rapidement, alors même que nous assistons, comme je disais, les données économiques pointent plutôt sur une croissance économique plutôt plus forte qu'attendue aux États-Unis, voire même une réaccélération, et alors qu'on parlait, vous vous rappelez, en fin d'année dernière, d'une récession probable. Donc, si vous voulez, là, il y a une vraie mécompréhension de comment les choses vont se passer. Si les revenus réels des ménages s'accélèrent, hein, si les salaires accélèrent à nouveau, puisque le marché de l'emploi reste assez fort, le scénario de récession, même cyclique, américaine, reposait sur le fait que l'épargne allait s'épuiser, tout cet excès d'épargne qu'on a accumulé pendant le Covid, et que les salaires réels commençaient à baisser. En l'occurrence, si vous avez des salaires réels qui compensent l'effet de l'épargne, le scénario de la récession, en tout cas, soit il est repoussé plus tard, soit il ne se passera pas. Donc, il y a une problématique d'inflation derrière, qui fait que normalement la Banque centrale pourrait être amenée à rester plutôt sur ses gardes avant de ce fameux pivot que nous prévoyons plutôt en 2024.
Merci beaucoup Irina Topaz-Seri, économiste senior chez AXA Investment Managers. Il est tout juste 10h20, on passe à l'immobilier.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Quel bilan pour le marché immobilier en 2022 après une année 2021 record? Doit-on parler de rééquilibrage ou de baisse structurelle? On va en parler avec Édouard Grimont, porte-parole du Conseil supérieur du notariat. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Merci d'être en plateau avec nous. Vous venez de publier votre note de conjoncture immobilière. Est-ce qu'on peut parler d'une baisse de volume de transactions ou est-ce qu'en réalité la lecture des chiffres selon vous est plus nuancée?
Alors, tout d'abord, on constate effectivement une baisse du nombre de transactions en France. Un chiffre, pour commencer, fin novembre 2022, 1 116 000 ventes ont été constatées. C'est un pic, c'est un nouveau record. Le dernier record remontait à fin 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire.
Mais ensuite, ça s'est dégradé.
Tout à fait. On constate, fin 2022, sur le dernier trimestre de l'année, eh bien une décrue, une baisse du nombre de mutations qui commence à s'accélérer. Ça n'est pas un crack, c'est pas un effondrement des volumes. Vous parliez de rééquilibrage, je pense qu'on peut effectivement utiliser ce terme. Nous revenons à un nombre de mutations qui est plus classique pour le marché.
Est-ce que la baisse des volumes de transactions en fin d'année a entraîné une baisse des prix?
Alors pour l'instant, la baisse des prix, je dirais, est contenue. On n'a pas la même proportion de baisse de volume que la même proportion des prix de vente, ça c'est clair. Ce qu'on peut constater, c'est que les prix ont encore tendance à augmenter, mais moins rapidement qu'avant. C'est l'amplitude, en fait, d'augmentation des prix qui diminue, qui baisse. On reste sur des prix qui progressent lentement, davantage d'ailleurs pour les maisons que pour les appartements. Au niveau des prix, alors ce qu'on constate également en pratique dans nos études, c'est davantage de négociations. Tout d'abord parce que les Français négocient plus. Je pense que psychologiquement, ils se sont rendus compte que parfois, certains biens étaient payés à une valeur qui était complètement décorrélée de la valeur intrinsèque du produit. Et puis, il y a un deuxième effet qui apparaît de plus en plus ces derniers mois, c'est le DPE, le diagnostic de performance énergétique, avec les biens qui sont très mal classés. Et c'est devenu un outil de négociation pour faire baisser les prix immobiliers.
Donc on peut négocier davantage, ça c'est la bonne nouvelle.
Aujourd'hui,
pour ceux
on
qui envisagent d'acheter un bien immobilier. La force des notaires, c'est que vous êtes très proche du terrain. Est-ce que les prix ont évolué de la même façon dans toutes les régions?
Non, les prix n'ont pas évolué de la même façon dans toutes les régions. Il y a une certaine cartographie effectivement que nous avons pu établir. Suite au confinement, on a augmenté un accroissement très fort de l'activité. Le télétravail, tout simplement, hein, des personnes, les Parisiens, région parisienne, qui ont souhaité aller travailler, profitant du télétravail, dans des lieux, des cadres de vie plutôt agréables, les zones plutôt touristiques.
On sait que les Pays Basques ont été très prisés.
Les Pays Basques, Bordeaux, la Bretagne, par exemple, ou des zones montagnardes ont été très recherchées, très prisées. Un nombre de mutations et l'augmentation des prix dans ces secteurs-là également ont pu être constatés.
Comment est-ce que l'inflation et la remontée des taux a influé sur le marché immobilier français? Ça, c'est une source de préoccupation pour vos clients.
Alors, c'est tout à fait, c'est une source de préoccupation. Tout d'abord, l'inflation, c'est quelque part une diminution du reste à vivre pour un potentiel acquéreur, surtout si l'augmentation des prix augmente davantage que l'augmentation des salaires. Donc, ça va retirer du marché au prêt, au crédit immobilier, un certain nombre de candidats. En ce qui concerne les prix, on constate la même logique. Les taux augmentant, ça va exclure du crédit un certain nombre de candidats potentiels, même si on peut saluer la décision de la Banque de France d'avoir décidé de réviser le taux d'usure tous les mois avec l'autorisation du ministère de l'Économie et des Finances, et non plus trimestriellement comme cela était avant.
Ce que nous disent les experts, c'est que cette révision désormais mensuelle du taux d'usure va permettre aux banques de relever davantage les taux de crédit. Et certains déjà nous disent on sera probablement aux environs de 4% à la fin de l'année sur les crédits immobiliers à 20 ans. La remontée est rapide, mais fondamentalement 4%, est-ce que c'est si exceptionnel?
Alors pour ceux qui sont jeunes, ça va paraître un taux...
On y était dans les années 2000.
Très élevé. Les plus anciens, je dirais, ont connu des taux à 5, 6, 7. Nos parents, 13, 14,
bien au-delà, voilà, dans les années 80.
Bien au-delà. Donc ça reste un taux attractif. Je pense qu'il y a un peu de travail d'acculturation à faire auprès des jeunes pour les réexpliquer. Ça reste bas.
Mais est-ce que vous voyez dans vos études certains clients faire marche arrière dans leur projet immobilier en raison de la remontée des taux?
Tout à fait. C'est une pratique qu'on ne voyait pas forcément avant. Mais beaucoup de clients viennent nous voir pour leur parler d'un projet, d'un compromis, d'une promesse de vente qu'ils souhaitent signer. Mais ils anticipent davantage la visite auprès de leur banquier. Et si la banque leur dit non, ça passera pas, ne montez pas le dossier, ils ne signent pas la promesse. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant.
Une question sur les biens recherchés, mais on nous disait pendant la crise sanitaire que les Français voulaient de l'espace, qu'ils voulaient une pièce en plus. Vous parliez de télétravail tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai aussi, ou est-ce que justement on a dû faire des concessions en raison de la remontée des taux?
Alors c'est vrai que les gens préfèrent effectivement avoir un petit bout de terrain.
On aimerait tous avoir de l'espace.
C'est le rêve pour la majorité, je pense, des Français. Surtout dans une région, je viens du Nord-Pas-de-Calais, où c'est quelque chose d'essentiel pour les gens. On constate effectivement davantage d'espaces verts, quitte à faire un peu plus de trajets pour pouvoir le trouver.
Comment est-ce que vous évaluez l'évolution du marché immobilier dans les mois, les années qui viennent, en termes de prix et de volume de transactions?
Alors, je n'ai malheureusement pas de boule de cristal, vous vous en doutez. La baisse des volumes devrait continuer, certainement, avec la hausse des taux, avec l'inflation, avec l'environnement économique que nous connaissons actuellement. Les prix commencent à se tasser, la négociation accrue, le DPE également. Il est fort à parier que la baisse des prix s'accentue davantage dans les mois qui viennent. Est-ce que ça sera sur le premier semestre uniquement? Est-ce que ça sera toute l'année 2023? Pour l'instant, nous n'en savons rien. Traditionnellement, on dit qu'une année en matière immobilière se fait au printemps. Donc le mois de mars qui arrive sera certainement déterminant pour le reste de l'année.
Quand les conditions évoluent, qu'elles changent dans un sens ou dans un autre, on nous dit souvent que ce n'est pas le moment d'acheter. Vous devez l'entendre tous les jours, cette réflexion.
On l'entend tous les jours, mais les mentalités changent. Les jeunes, en particulier, aiment bien se sentir chez eux, même si la notion d'usage est davantage développée que la propriété, à proprement parler. Mais les gens préfèrent payer leur banque pour être propriétaire et capitaliser qu'être locataire, de manière générale. Donc la pierre, ça reste vraiment une valeur refuge pour les Français, et on le ressent quotidiennement dans nos études.
On est d'accord sur le long terme, mais si les prix continuent de baisser, est-ce que pour les acheteurs, c'est pas plus prudent d'attendre un petit peu?
Si, pour les acheteurs actuellement, avec la hausse des taux, en espérant que ça puisse rebaisser, et avec les prix qui commencent à se tasser, il vaut mieux décaler son projet peut-être de quelques mois pour voir comment la courbe finira par monter ou descendre.
Et pour les vendeurs, si on n'est pas pressé?
Autant conserver son bien pour l'instant.
Donc pour l'instant,
reste une valeur refuge et un bon capital.
Merci beaucoup pour votre analyse sur le marché immobilier, Conseil supérieur du notariat, donc et ce rapport annuel, ce rapport sur la conjoncture immobilière, rééquilibrage, vous nous avez dit, en fin d'année 2022. Dans un instant, ce sera le match des traders. On va retrouver Jean-Louis Cussac et Romain Daubry. Le marché parisien fait du surplace. On est à 7135 points pour le CAC. On perd 0,03% parmi les valeurs qui se distinguent. BNP Paribas, l'une des plus fortes hausses. On aura l'occasion d'y revenir après la publication des résultats annuels records, même si les chiffres du quatrième trimestre étaient un petit peu inférieurs aux attentes. Vous pouvez retrouver nos interviews en replay sur le site internet de BFM Business. Vous pouvez également flasher le QR code qui se trouve actuellement sur votre écran si vous nous suivez à la télé. On se retrouve juste après la pause.
BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Stéphane Pedrazzi.
Il est 10h30, dans un instant on vous parlera de Renault-Nissan, rééquilibrage du partenariat, on en parlera avec Nicolas Dose dans la polémique, on parlera également des dernières nouveautés en matière d'épargne salariale, ce sera vers 10h45 avec Jérôme Dédéian, président de Mon Partenaire Patrimoine. Mais d'abord, les marchés financiers, on va retrouver nos deux traders dans un instant. Jean-Louis Cussac, trader et formateur chez Perceval Finance, bonjour Jean-Louis, on se retrouve dans un instant, mais d'abord on va donner la parole à Romain Daubry, spécialiste des marchés dérivés et membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
On fait du surplace, quel est le problème aujourd'hui?
Il n'y a pas vraiment de problème, on prend un peu de bénéfice après un parcours quand même assez fort depuis le début de l'année. C'est une consolidation qui est assez forte elle-même d'ailleurs, on voit des forces de rappel quasi systématiquement sur les mêmes niveaux qu'on va évoquer, mais il n'y a pas pour l'instant de figure de retournement dans le marché, ni de niveau majeur rompu, ni de pression baissière, donc ça reste une consolidation et pas d'arrêt dans ce mouvement baissier, aussi fort soit-il depuis le début de l'année. On l'a d'ailleurs vu en fin de semaine dernière, des volumes qui ont flirté avec les 5 milliards sur l'indice parisien en fin de semaine, avec des hausses importantes et surtout de la rotation du côté des secteurs. On voit qu'il y a de l'intérêt sur différentes valeurs, différents secteurs, et au fur et à mesure ça tourne. Aujourd'hui c'est le secteur des pétrolières qui repaye un peu, avec le Brent qui repasse au-delà de 81,40, la zone 79,30, 81,40. Alors on a quand même de l'intérêt qui s'est construit doucement du côté des marchés dérivés depuis la dernière échéance du mois de décembre, de entre 2 et 8% d'intérêt construit sur le S&P ou l'Eurostoxx depuis les dernières semaines. Donc ce sont des marchés qui sont relativement soutenus, même si ça manquait avant, c'est en train de se mettre en place. Et puis, on a surtout des opérateurs qui sont extrêmement prudents. À chaque fois qu'il y a un warning, eh bien, on le voit, la volatilité se tend à nouveau. Ça a été le cas hier. On avait mis un pied en optimisme, si on veut le dire comme ça, sur le VIX, en passant sous les 18,5. Et puis, dès que le marché consolide un peu, la volatilité se tend et on revient en zone de vigilance, en tout cas au moins, sur le CAC 40, sur le niveau actuel. On a deux options de vente pour une option d'achat à nouveau. Ça veut dire que même en étant au-delà de 7100 points, les opérateurs sont plutôt prudents. Et on a un consensus d'ailleurs qui est assez prudent. Soit les opérateurs étaient dans le marché et sur les niveaux actuels, ils se couvrent. Soit ils n'y étaient pas et ils attendent des niveaux de retracement pour rentrer. On a toujours cette même configuration et on le voit. Il y a des forces de rappel. La zone 7115-7126, qui était notre résistance les jours précédents, est devenue support. Et on a rebondi dessus, je n'arrive plus à compter combien de fois. Et c'est un niveau d'entrée intraday sur les futurs à l'achat, donc qui est intéressant pour nous depuis plusieurs jours. Même si on rompait ce niveau-là et qu'on allait jusqu'à 7064, il n'y aurait vraiment pas de warning en intraday. Ce serait toujours des niveaux pour acheter. Le niveau d'alerte, il est plus bas. Il est situé autour de 6997. L'extension de la consolidation, elle pourrait mener jusqu'à 6865. On n'en est pas encore là. Il faudrait vraiment casser ces niveaux-là. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a un petit warning, les indices repayent assez rapidement. La première résistance, c'est 7149, puis 7189. Et ensuite, on a la borne haute du petit canal dans lequel on se trouve, qui est située entre 7214 et 7233, selon le moment où on ira le toucher. Pour l'instant, ça reste haussier, même si effectivement on souffle un peu, mais on voit que dans les journées de consolidation comme hier, il y a 3,4 milliards échangés. Dans les journées de hausse, il y a 4,8 milliards. Ça reste un marché haussier.
Merci beaucoup Romain Daubry, Bourse Direct. On va donner la parole à Jean-Louis Cussac, trader, formateur chez Perceval Finance. Le CAC fait du surplace aujourd'hui, 7137 points. Cela dit, depuis le 1er janvier, on frôle les 10% de hausse, 9,9% exactement. Jean-Louis, comment est-ce que vous regardez cette séance ?
Avec surprise à l'ouverture, il y a eu un mouvement énorme. Le marché a ouvert, on va dire, un petit peu en hausse. Et puis à 9h, il y a eu, je sais pas, des arbitrages très importants. On a perdu 40 points, enfin, en ligne droite. En quelques secondes, on a perdu 0,64%. On a regagné très vite aussi 0,45%. Pendant ce temps-là, la BNP, alors, elle a ouvert en hausse de 1,2, elle a perdu 3,3, elle a regagné 3,65. Enfin, c'est énorme, ce sont des mouvements assez importants. Il y a d'autres valeurs, évidemment, hein, qui ont fait des mouvements aussi forts. Et BNP, elle pèse quand même 4,2% de la pondération du CAC 40, donc c'est pas mal. C'est assez bizarre. Vraiment, cette ouverture nous a permis, alors nous on avait proposé d'acheter à 7123, bon souvent je donne un niveau à cette heure-là sur lequel on est en train d'acheter et là on le propose en général vers 7h50 et donc on a été exécuté. Pareil sur le DAX à une vitesse incroyable, on était positionné à 13323, on a été exécuté également, le marché vraiment a plongé, a rebondi en quelques, le mouvement a fait 4 minutes à la baisse et 5-6 minutes à la reprise. Alors, est-ce que ce sont des paris sur ce que dira Powell ce soir? On ne sait pas, mais en tout cas, c'était l'occasion de faire quelque chose. Donc, l'idée, c'est toujours d'acheter sur des replis. Alors, c'est vrai que quand on voit cette violence, on hésite un peu. Donc, je vous dis pas qu'on en achète beaucoup, parce qu'on fractionne un petit peu aussi ses achats. Mais c'est toujours la même chose. On est à l'instant T, là. On est exactement, en fait, où nous étions hier à la même heure. Donc, vous voyez, le marché, un coup, il baisse, il remonte. Bon, après, c'est les vitesses qui peuvent faire peur parfois, c'est tout. Mais il y a toujours cette attente optimiste. On est quand même à 7150. Vous voyez compte, on n'est pas repassé sous les 7000. On n'a jamais retracé d'une manière significative. On reste très proche des plus hauts donc de la phase. Et ce marché tient merveilleusement bien. L'eurodoll, lui, c'est pareil. Quand il y a eu ce mouvement de baisse, il a plongé sous les 1,07. Très, très éclair. Hein, il a tout de suite rebondi. Là, il vaut 1,0721. Donc, OK, il tient. L'idée, c'est aussi d'acheter. Donc, on est acheteur potentiellement partout. On a envie parfois de temporiser un peu. Et alors on se place quand même un tout petit peu, mais on temporise sur des achats plus significatifs. Parfois on attend des signaux techniques, etc. Mais là on n'a pas eu le temps de dire ouf. Hein. Boum, boum, c'est reparti. Écart exécuté et puis on verra plus tard. Donc voilà. Ce soir Powell est très attendu. Est-ce qu'il va redonner reprendre un discours plus dur. Il y a de quoi en tout cas être hyper méfiant sur les politiques monétaires qui seront mises en place d'ici la fin de l'année 2023. Tous les acteurs y trouvent ce qu'ils viennent chercher, c'est-à-dire les optimistes, ils se disent non, mais il faut rester optimiste. Et puis ceux qui sont un peu plus pessimistes se disent bon, bah après tout, les dernières statistiques montrent qu'on avait raison. Et il y a que le prix des marchés qui leur donne tort, parce qu'évidemment les marchés ont beaucoup progressé, alors que beaucoup justement ne sont pas suffisamment acheteurs de ce marché, ce qui fait que ça baisse pas, parce qu'il n'y a pas de vendeurs potentiels. Il y a au contraire des gens qui sont prêts à acheter sur des replis, en tout cas pour l'instant, même avec les problèmes géopolitiques entre la Chine et les USA, le moral reste plutôt positif, avec une hyper méfiance et des volumes modérés. On est à 480 millions, donc c'est assez modeste par rapport au jour précédent.
Merci beaucoup Jean-Louis Cussac, trader, formateur chez Perceval Finance. 10h39, la polémique.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose nous a rejoint en plateau. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
La nouvelle alliance Renault-Nissan est scellée. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ?
Franchement, c'est un accord, c'est un traité de paix. C'est un traité de paix. Sinon, on allait arriver à la solution nucléaire où chacun allait finir par se séparer des parts dont il détenait, enfin qu'il détenait dans l'autre, en les vendant au plus offrant. D'ailleurs, le choix de Londres pour annoncer l'événement n'est pas neutre. Hein. C'était pas à Yokohama, c'était pas non plus à Paris, c'était à Londres. C'est aussi l'enterrement définitif de l'héritage de Carlos Ghosn. Faut bien le voir tel que c'est, voilà. Et mieux vaut probablement un tandem à parts égales comme celui-là qui a une chance d'avancer, plutôt que la domination préalable qui était devenue complètement stérile et complètement stagnante.
C'est vrai que le choix de Londres, ça fait très traité de paix. Concrètement, Nicolas, qu'est-ce que signifie cette nouvelle répartition du capital, 15% de part et d'autre ? On le rappelle, auparavant, Nissan détenait 15% de Renault, mais le français, lui, contrôlait plus de 43%.
Du côté de Nissan, objectivement, c'est quand même une victoire, parce que c'est un rééquilibrage des participations. C'est aussi une remise à plat de la gouvernance. Parce qu'effectivement, Nissan détenait 15% de Renault sans aucun droit de vote. C'est pas la même chose. Et aussi, c'est la fin de la peur permanente d'imaginer qu'un jour ou l'autre, il pourrait y avoir une volonté française, notamment appuyée par l'État, de prendre le contrôle du japonais. Et la lettre de Bruno Le Maire, qui a été envoyée officiellement le mois dernier au Japon, pour bien préciser qu'il soutenait ce projet et pour mettre les choses parfaitement au carré, a en fait achevé probablement de rassurer les Japonais. Parce que les 15% de part et d'autre sont quand même assortis d'une obligation de conservation et de plafonnement. Ça veut dire qu'on a un peu figé une situation équilibrée, ce qui n'était pas le cas auparavant, bien évidemment. Enfin, il faut bien voir que quand Carlos Ghosn arrive il y a 24 ans, il arrive en sauveur de Nissan, et donc il a un peu dicté une loi française chez le Japonais.
Quelle est la perception des choses chez Renault ? Luca de Meo était l'invité de la matinale de BFM Business ce matin.
Ah, intuitivement, on se dit, quand on passe de 43, un peu plus de 43% à 15% dans le capital d'une entreprise, normalement, c'est pas censé être une bonne nouvelle. Et pourtant, du côté de Renault, c'est quand même la fin d'une relation grippée. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement quand même fondamental dans cette histoire. En 2015, vous vous souvenez, Emmanuel Macron est ministre de l'économie. Et il va recourir à une loi qui s'appelle la loi Florange, qui permet à un actionnaire ancien d'obtenir des droits de vote double. Il fait grimper la participation de l'État de 15 à 20% et a sorti tout ça de droits de vote double pour bloquer les ambitions de Carlos Ghosn lors de l'Assemblée Générale. Et là, le gouvernement français avait à l'époque la crainte que Carlos Ghosn veuille basculer le centre de gravité de l'ensemble de l'Alliance plutôt du côté japonais. Ça a été très 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 mal vécu. Et donc il y a eu ce qu'on a appelé l'accord Rama en 2015, qui a complètement revu en fait la gouvernance et le poids de Renault, pas en termes de capital mais en termes de représentants au conseil d'administration. Il n'y avait plus que 2 représentants sur 12 de Renault au conseil d'administration, et finalement avec 43,4% du capital, Renault n'avait pas le pouvoir qu'il pouvait espérer dans l'alliance, abîmé par ce qui est objectivement une opération de raideur qui avait été menée par Emmanuel Macron. Et donc là en fait on sort d'une forme de léthargie même si on peut considérer que c'est quand même une perte de pouvoir de la part de Renault. Et puis c'est aussi une déconnexion des parcours boursiers. Quand vous avez 43% de l'autre, vous toussez avec lui. Et depuis 5 ans, il y a eu l'occasion de tousser pas mal avec Nissan. Alors je rappelle qu'effectivement, il y avait 43,4% du capital, donc il y a 28,4% que Renault conserve, mais qui sont gelés dans une sorte de frigo, un trust, une fiducie. Et Renault a la possibilité, avec le temps, en accord total avec le japonais, de céder progressivement les parts du capital qu'il détient dans Nissan sans jamais dépasser un paquet de 5% du capital. Et c'est, de toute façon, ça n'arrivera pas dans un avenir proche parce que le titre Nissan a perdu 60 à 65% de sa valeur depuis 2018.
Justement, à quoi peut ou à quoi va ressembler la suite ?
Il y a déjà deux paris assez audacieux. Il y a le pari Horse qui consiste avec d'autres partenaires, un Geely, le chinois, et également Aramco, d'avancer dans la production de moteurs thermiques et hybrides. Puis il y a la partie Ampère, la partie moteur électrique qui là va être menée en partenariat avec Nissan. Il y a aussi des ambitions internationales en Europe, en Amérique latine, en Inde notamment. Parce que Renault doit rebondir. Ses ventes ont fondu depuis 5 ans de manière assez impressionnante. Bon, c'est vrai qu'il s'est passé des choses. Il y a eu vaguement Covid, il y a eu la perte de Lada en Russie, et puis il y a eu aussi les difficultés d'approvisionnement, mais quand vous regardez la capitalisation boursière sur 5 ans, elle a été divisée par 3, elle est tombée à 10 milliards d'euros, donc maintenant, Luca de Meo doit convaincre que son grand virage stratégique de l'après-Gaune, où c'était terminer les volumes, maintenant on allait faire de la création de valeur, on arrête de regarder le chiffre d'affaires, les parts de marché, on regarde les marges, il va falloir montrer que ce qu'il avait appelé la renolution, eh bien, a un avenir. Alors la renolution, c'est avoir 30% du chiffre d'affaires tiré par l'électrique en 2025, 35% tiré par l'hybride, conquérir les classes moyennes, notamment avec le retour de la Renault 5 électrique, la R5, être compétitif, notamment en France, sur le marché de l'électrique, et puis multiplier les partenariats. J'ai parlé des partenariats dans les moteurs hybrides, les moteurs thermiques, les moteurs électriques, mais il y a aussi des partenariats très importants dans les logiciels, des partenariats dans les semi-conducteurs. Et il était bon que pour espérer tout ça, une paix des braves soit trouvée entre les deux partenaires franco-japonais.
Merci beaucoup, Nicolas Dose. La polémique tous les matins, 10h40. Restez avec nous, la suite va vous intéresser. On va parler partage de la valeur.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Quelles sont les dernières nouveautés en matière d'épargne salariale et plus généralement pour les dispositifs de partage de la valeur? On va faire le point avec Jérôme Dédéian. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Président de Mon Partenaire Patrimoine. Quelles sont les nouveautés en ce début d'année? Généralement, c'est le moment où on amène des nouveautés.
Exactement. En fait, on peut dire, si vous me passez l'expression latine, multi novi sub sole, il y a beaucoup de nouveautés sous le soleil de l'épargne salariale et du partage de la valeur en ce début 2023. Une augmentation du potentiel d'optimisation, la simplification encore et toujours de l'intéressement, et puis on nous annonce une nouvelle réforme.
On continue en latin. Quid novi, quoi de neuf pour l'épargne salariale?
Alors d'abord, Stéphane, il ne vous aura pas échappé que le plafond annuel de la sécurité sociale, le fameux PASS, a été revalorisé de presque 7% en ces débuts d'année, après plusieurs années de gel, trois années de gel, précisément de 6,9%. Et donc évidemment, ça augmente considérablement, d'autant le potentiel d'optimisation lié aux différents mécanismes d'épargne salariale. On va les reprendre simplement. Abondement dans le plan d'épargne d'entreprise, plus de 3500 euros désormais. Abondement dans le plan d'épargne retraite collectif, plus de 7000 euros par personne et par an désormais, dont à chaque fois pas loin de 900 euros que l'employeur peut verser unilatéralement, s'il décide d'amorcer la pompe pour les collaborateurs ou les bénéficiaires de son entreprise. Et puis, évidemment, les primes de participation et d'intéressement maximales par personne montent désormais jusqu'à 32 994 euros, 33 000 euros par personne
ça
et par an.
Fait un beau montant. En réalité, c'est un plafond légal. Personne ne touche autant que ça.
Alors, vous avez raison, mais imaginez quand même, rêvons un peu. Un cas extrême d'une entreprise qui aurait des moyens illimités pour partager la valeur avec ses collaborateurs, eh bien, si on additionne l'abondement maximum dans les plans d'épargne, la participation et l'intéressement, ça monte à plus de 75 000 euros potentiels par personne et par an.
Alors, évidemment. Un beau complément de revenu,
Alors, ça fait un beau complément de revenu. Alors, évidemment, Stéphane, si vous connaissez des entreprises qui ont les moyens de verser 75 000 euros de partage de la valeur à chacun de leurs collaborateurs ou chacune de leurs collaboratrices chaque année, je veux bien gérer leur plan d'épargne avec l'équipe de Mon Partenaire Patrimoine. On sera très, très heureux de les accompagner. Non. Plus sérieusement, derrière ces montants un peu théoriques, il n'est pas rare que dans certaines structures, holding animatrice, société familiale, le cumul abondement puis intéressement par exemple, même si on n'est pas encore soumis à participation, représente des milliers voire des dizaines de milliers d'euros.
Ouais. Les chefs d'entreprise y ont droit? Alors, mais il y a des conditions, non?
Oui, il y a des conditions. En fait, quand je suis chef d'entreprise, j'ai droit à l'épargne salariale dans la mesure où mon entreprise a au moins un salarié distinct de moi, dirigeant, même à temps partiel, et où par ailleurs mon entreprise n'a pas plus de 249 salariés, donc c'est quand même une très très grande majorité des TPE et PME françaises. Alors vous allez me dire, il y a une règle qui dit qu'en épargne salariale, la prime d'intéressement ou de participation du chef d'entreprise est plafonnée quand on distribue au salaire à la prime du salarié ou de la salariée le mieux payé.
Ça, c'est une pratique, c'est pas une règle.
Non, c'est une règle.
C'est une règle,
voilà.
D'accord.
Simplement, quand vous employez quelqu'un à temps partiel dans votre structure, et bien, en fait, si vous faites la répartition au temps de présence, ce plafonnement n'intervient pas. Donc, il y a une mine d'optimisation qui permet au chef d'entreprise de récompenser ses collaborateurs tout en en profitant lui-même.
Jérôme, pourquoi est-ce qu'un chef d'entreprise indépendant ou un patron de TPE ou de PME passerait à l'épargne salariale?
Bon, je vais aller très vite. En fait, avec l'enlèvement des plafonds, c'est encore plus de potentiel d'optimisation des revenus. On va la faire courte. Quand je suis chef d'entreprise, si je touche de l'épargne salariale, c'est plus efficace que de la rémunération classique de travailleurs non salariés ou de président de SAS assimilé salarié. Et c'est même plus efficace que du dividende. En gros, pour 1 000 euros dépensés par mon compte d'exploitation, celui de mon entreprise, je mets 903 euros sur mon plan. Alors que si je le fais en salaire ou en revenu, il va me rester 330 ou 433 euros pour 1 000 euros dépensés. Et c'est évidemment plus efficace, 2 à 3 fois plus efficace que de la REM et plus efficace que du dividende.
C'est tout ce que vous avez à dire sur les montants potentiels?
Alors oui, maintenant, il faut dire aussi que cette forte revalorisation du PASS, hein, 6,9%, ça fait remonter tous les plafonds épargne-retraite. Et donc, on a plus de potentiel de déductibilité dans son PER, qu'il soit d'entreprise ou qu'il soit individuel. Donc, c'est évidemment une bonne nouvelle pour tous les épargnants.
L'intéressement qui, avec l'abondement, est le dispositif le plus utilisé hein, par les petites et moyennes entreprises, quels sont les ajustements?
Alors, en fait, c'est la deuxième zone de nouveauté. Hein. L'intéressement est encore plus facile à mettre en œuvre. En fait, on peut désormais, quand on n'est pas soumis à représentation du personnel, hein, moins de 11 salariés, ou qu'on est en carence, octroyer unilatéralement dans les TPE son accord d'intéressement. Et on peut aussi le mettre en place seulement pour 1 an ou 2 ans, s'il s'agit d'un premier accord, et non pas pour les 3 ans classiques. Donc ça permet à un chef d'entreprise de tester si ça fonctionne, si c'est bien valorisé par ses collaborateurs, avant de prendre le risque de s'engager sur une longue durée.
On avait parlé du dividende salarié.
Le dividende salarié, alors on nous promet une nouvelle réforme. Alors, si vous voulez mon avis, Stéphane, le dividende salarié, il ne va pas prospérer. D'accord ? Parce qu'il y a d'abord un contresens complet. Hein, quand je suis actionnaire, je ne réclame pas mon salaire d'actionnaire. Bon. Donc il y a un problème de mots. Et puis surtout, il était dans sa conception initiale versable par une entreprise qui augmenterait les dividendes. Or, le dividende n'enrichit pas les actionnaires. Hein. C'est mécanique. Quand une boîte vaut 100, qu'elle a 10 de trésor, si elle distribue 10, l'actionnaire a toujours 110. Hein, 100 de valeur du fonds de commerce plus 10 de dividendes, enfin de trésorerie. Qui deviennent 2 de dividendes, la seule différence, c'est qu'il l'aura sur son compte en banque, qui pourra en faire ce qu'il veut, et non pas à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est pas exactement ça qui va se passer. En revanche, il y a pas mal de pistes intelligentes qui sont en ce moment en cours de débat, puisqu'on nous annonce une prochaine réforme sur le partage de la valeur, avec une refonte de la formule de participation aux bénéfices, qui est désormais totalement obsolète. Hein. Il faut la changer pour qu'elle donne plus et pour qu'elle soit plus calée sur la création de valeur des boîtes. Elle était sur le bénéfice fiscal, qui ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Ensuite, il y a un sujet sur le fait d'étendre le domaine de la lutte aujourd'hui. On doit partager la valeur, vous le savez, à partir de 50 salariés. On pourrait très bien imaginer que dès que j'emploie quelqu'un, je dois mettre en place un dispositif de partage de la valeur.
Ça risque d'être très compliqué dans les petites structures.
Bah, pas s'il n'y a pas d'obligation de montant. Hein, vous dites, obligation de mettre quelque chose en place, pas d'obligation de montant. Et donc ça veut dire qu'un patron peut y aller sans crainte, puisqu'il pourra partager de la sur-valeur par rapport à ce qu'il a prévu dans son plan d'affaires.
Donc ça c'est une deuxième
piste. Voilà. Et puis la dernière piste importante, c'est, vous savez, on a cette fameuse prime patron, ou prime Macron, qui tombe un peu de nulle part, on ne sait pas pourquoi elle est là, elle n'est pas liée aux résultats économiques de l'entreprise. Il y a en débat en ce moment, dans la réforme à venir, la réintégration de cette prime à l'intérieur des dispositifs de partage de la valeur, avec les explications pédagogiques qui vont avec.
Vous dites toutes ces pistes, elles sont vertueuses.
Oui, elles sont très vertueuses. Elles devraient permettre aux entreprises de mieux associer leurs collaborateurs et surtout de faire de la pédagogie économique autour de leurs résultats et de leur modèle économique. C'est exactement ça qu'on cherche, hein, réconcilier les Français avec la marge de leurs entreprises.
Il y a quand même une question très philosophique, pour ne pas dire syndicale. Est-ce que ces mécanismes de partage de la valeur, à terme, ils ne vont pas remplacer une partie du salaire?
Alors, c'est souvent une crainte qui est avancée par les gens, mais je vais vous la faire courte. Depuis maintenant 30 ans, si vous pouvez remonter toutes les stats de l'INSEE, le pouvoir d'achat corrigé de l'inflation, hein, donc en termes réels, des Français, a a augmenté, alors que les mécanismes de partage de la valeur se sont développés. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas eu substitution de ces mécanismes de l'épargne salariale au salaire, augmentation du pouvoir d'achat du salaire net réel versus développement des mécanismes d'épargne salariale. La deuxième chose, c'est que c'est interdit de substituer un élément de rémunération cotisé et fiscalisé pour le remplacer par de l'épargne salariale.
Mais peut-être pour les nouveaux entrants.
Alors, non, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez le droit, évidemment, de continuer vos négociations sur les salaires des gens à l'intérieur de votre entreprise, et en même temps, pour employer une expression chère à notre président de la République, vous pouvez mettre en place quelque chose qui va donner de l'épargne salariale, des primes de partage de la valeur à vos collaborateurs, si votre entreprise fait mieux que prévu. Et donc vous distribuez de la sur-valeur et non pas un substitut au salaire.
On attend des propositions d'amélioration de la part des partenaires sociaux et du gouvernement. En attendant, si je suis chef d'entreprise et que je veux y réfléchir, je m'y prends comment ?
Alors, en fait, c'est extrêmement simple. D'abord, il faut avoir un business plan ou au moins un budget. Et ensuite, vous consultez un professionnel qui connaît bien les mécanismes et qui va vous aider.
Par exemple, mon partenaire patrimoine.
Alors, par exemple, mon partenaire patrimoine ou tout autre conseiller en gestion de patrimoine, parce qu'on les a beaucoup formés ces dernières années pour qu'ils s'emparent des dispositifs et ils deviennent maintenant des acteurs en partenariat avec les experts comptables des entreprises incontournables de la mise en place de ces dispositifs dans les boîtes. Aujourd'hui, Olivier Dussopt reçoit pour la dernière fois les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation. On attend le résultat de la prochaine réforme pour les 15 jours ou 3 semaines qui viennent.
Merci beaucoup, Jérôme Dédéian, président de Mon Partenaire Patrimoine, pour ces explications. C'est vrai que c'est un sujet. Le partage de la valeur dont on parle beaucoup actuellement. Dans un instant, on va parler de la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante, mais d'abord les marchés.
Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
La Bourse de Paris en très légère progression, plus 0,1%, 7144 points. Volume d'échange assez étoffé, surtout toujours une belle progression depuis le début de l'année. On frôle pratiquement les 10% de hausse sur le CAC 40 depuis le 1er janvier. Parmi les valeurs qui se distinguent, plus forte progression aujourd'hui pour BNP Paribas, 1,9% de hausse. La banque a publié des résultats records pour 2022, 10 milliards, un peu plus de 10 milliards d'euros, avec toutefois un quatrième trimestre un peu plus faible que prévu. À la hausse également le reste du secteur bancaire. Société Générale, qui va publier ses résultats demain, progresse de 1,5%. Total Energy dans le secteur pétrolier, plus 1,7%. Et puis à l'autre bout du tableau, Eurofins Scientifique perd 3,6%. Carrefour abandonne 2,8%.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
La loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante a été promulguée il y a pratiquement un an, c'était le 14 février 2022. Est-ce que le nouveau statut de l'entrepreneur individuel protège davantage le patrimoine du chef d'entreprise ? C'est une préoccupation assez fréquente pour les entrepreneurs. On va en parler avec Virginie Roitman, présidente de Lucius Expertise. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Merci d'être avec nous. Pourquoi est-ce qu'une nouvelle loi était nécessaire ? Pourquoi est-ce qu'il fallait, selon vous, réformer ce statut ?
Il y a à peu près 2 à 3 millions d'entreprises individuelles en France. Et la grande problématique, c'est la protection du patrimoine du chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise individuelle ? C'est en fait un artisan, un commerçant qui exerce sans forme sociétale, sans société commerciale. Et donc, il n'est pas protégé par la personne morale. Il n'y a qu'une personne physique.
C'est-à-dire qu'en cas de dette importante, son patrimoine est menacé.
C'est exactement ça. Donc c'est pourquoi depuis 20 ans, depuis 30 ans, des lois se succèdent. Par exemple, en 2003, le chef d'entreprise peut se protéger avec une déclaration d'insaisissabilité de sa résidence principale. En 2005, sa résidence secondaire. En 2008, le législateur invente l'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. En 2015, la loi dite Macron permet une protection automatique de la résidence principale, et nous arrivons en 2022 avec cette loi grisée qui enfin propose une protection complète et en fait une séparation automatique du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel.
Alors justement, on se pose la question du patrimoine professionnel. Comment est-ce qu'on le définit ?
Alors, il est défini assez clairement dans la loi. Ouais. C'est le patrimoine utile, les actifs utiles à l'exploitation. c'est-à-dire le fonds de commerce, la caisse, les véhicules, le compte en banque, tout ce qui est utile donc pour faire fonctionner la machine.
Parfois c'est très clair, mais parfois aussi il y a des biens mixtes.
Exactement.
C'est-à-dire une pièce de la maison utilisée à des fins professionnelles.
Tout à fait.
Comment est-ce qu'on la considère?
Voilà, un artisan qui bosse dans son garage.
Ouais.
Et donc la maison elle peut être à 90% à usage personnel et 10% à usage professionnel, et bien dans ces cas-là, les dettes personnelles s'imputeront sur 90% de la maison et les dettes professionnelles sur 10% de la maison.
Il y a quand même des exceptions à la protection du patrimoine personnel.
Alors il y a trois exceptions. La première, c'est que le chef d'entreprise peut y renoncer avec la pression des banques, de créanciers. Donc il peut renoncer à protéger son patrimoine personnel.
Ça, c'est quand même une faille importante. On imagine que les banquiers, dans certaines situations, exigent cette renonciation.
Et c'est une faille très importante. Ouais. Et il y a aussi deux autres exceptions aussi importantes. Certaines dettes sociales et fiscales peuvent être gagées sur ce patrimoine. Et la totalité des dettes fiscales et sociales de l'entrepreneur individuel, si jamais il y a fraude, pourrait être s'imputer sur ce patrimoine personnel.
Du coup, quel est votre conseil pour avoir l'assurance de l'insaisabilité de...
Insaisissabilité,
voilà, oui. Il en manquait un morceau. Du patrimoine, comment est-ce qu'on le protège, son patrimoine personnel?
Alors,
quel est votre conseil?
Pour le protéger au mieux, évidemment, il faut créer une société commerciale.
Morale, ouais.
Voilà, on crée une personne morale. Comme ça, les patrimoines sont vraiment distincts. Évidemment, il ne faut pas faire sauter cette barrière avec une caution bancaire, lorsqu'un chef d'entreprise donne une caution bancaire. J'avais aussi envie de vous parler de la SCI.
Oui.
Parce que ça, c'est un domaine important de cette nouvelle loi qui protège moins bien qu'avant, parfois certains professionnels médicaux, par exemple un cabinet médical ou des médecins décident d'acheter les locaux, l'immobilier, et ils le logent dans une société civile immobilière, une SCI. Et bien, ces locaux étant utiles à l'activité, en cas de défaillance de l'activité professionnelle, ces parts de SCI pourraient être saisies par les créanciers. Donc là, la loi recule avec ce domaine-là, et donc là, la SCI qui protégeait hier ne protège plus aujourd'hui. Donc là, c'est une vraie problématique.
Vous avez raison, c'était utile effectivement de le souligner. Il y a aussi un autre objectif, l'option possible à l'impôt société. Expliquez-moi.
Exactement. Les objectifs de cette loi grisée, donc le premier était la protection du patrimoine, on l'a vu ensemble, et le deuxième, l'option à l'impôt société. Alors, on est toujours avec un mouton à cinq pattes. Pourquoi une entreprise individuelle qui est naturellement à l'impôt sur le revenu opterait à l'impôt société? Ben, ce sont des problématiques et d'optimisation sociale et fiscale. Par exemple, un artisan a un résultat tous les ans de 80 000 euros, mais n'a besoin pour son train de vie que de 50 000 euros. À l'impôt sur le revenu, il paye de l'impôt et des charges sociales sur les 80 000 euros. À l'impôt société, il pourrait limiter son imposition sur les seuls 50 000 euros dont il a besoin. Mais il faut faire très attention avec cette option à l'impôt société, parce qu'elle a des conséquences importantes en matière de taxation des plus-values professionnelles. En fait, l'option à l'impôt société entraîne une cessation d'entreprise, comme on le voit fiscalement, et donc c'est une taxation de la plus-value qui peut être éventuellement reportée. Donc, quoi qu'il en soit, si j'ai envie de vous conseiller quelque chose, dans ces cas-là,
oui,
rapprochez-vous de votre conseil préféré, qui est votre expert comptable.
Merci beaucoup pour ces explications. Effectivement, ce sont des changements qui concernent potentiellement des centaines de milliers de chefs d'entreprise. Virginie Roitman, présidente de Lucius Expertise. On a pris un petit peu de retard. Dans un instant, on parlera des marchés financiers avec Sarah Thirion. La Bourse de Paris fait du surplace, 0,1% de hausse. Juste après l'info éco, Stéphanie Colo. Et puis l'œil de l'expert aujourd'hui recevra Vincent Juvin, stratégiste macro global chez JP Morgan Asset Management. On parlera des banques centrales, puisque Jérôme Powell doit prendre la parole dans les prochaines heures. A tout de suite.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.